Jusqu'ici, tout va bien ? De Marie Collot aux éditions Alice Jeunesse. Sixième partie. Bruxelles, le 30 novembre 2016. Cher Anka, dans ta dernière lettre, tu me demandais des nouvelles. Si je t'écris ce soir, c'est pour t'annoncer que la situation ne s'est pas améliorée. Joseph a été arrêté ce matin pour un braquage dans une supérette du quartier et il s'est ensuite enfui du commissariat. Un policier est venu me l'annoncer au travail. Quelle honte! J'ai retenu mes larmes comme j'ai pu. Je ne voulais pas craquer devant mon patron qui me reproche régulièrement mes absences répétées. Encore une fois, il a dû m'accorder un congé pour que je me rende au commissariat et que je discute avec le commissaire qui a obtenu un placement d'urgence en CEF. Je ne sais pas si je dois m'en réjouir ou m'apitoyer. Quoi qu'il en soit, il n'y est pas encore. Personne ne sait actuellement où il est. La police m'a conseillé de ne pas m'alarmer. Elle pense que sa cavale ne durera pas et qu'il ne tiendra pas seul dehors par ce froid. C'est vrai que malgré son sang polonais, il n'est pas habitué à la rigueur de l'hiver. Il a quitté notre pays si petit. Parfois, je voudrais revenir à ces années où il rampait sur la moquette en riant ou venait chercher un câlin dans mes bras quand il avait un chagrin. Tu devrais voir comme il a changé depuis notre dernière visite chez toi. Je ne reconnais plus mon fils. Je n'essaie plus de comprendre ce qui lui traverse la tête et, bien sûr, il ne me le confie jamais. À la maison, quand il est là, il parle peu. Il me rabroue quand je lui pose des questions sur sa journée. Il se fâche à la moindre contrariété. Dans ses yeux, je vois qu'il nous méprise et qu'il nous reproche cette vie trop minable pour lui, comme il aime le répéter. Je t'assure, j'en ai entendu de toutes sortes. Mes oreilles sont pleines, mes nerfs fragiles et mon impuissance plus grande chaque jour. Quant à André, il est incapable de me réconforter. Tu le connais et tu imagines sa réaction. Elle n'arrange rien, tu t'en doutes. Oh Anka, j'aimerais tellement être près de toi. Je sais que tu comprendrais ma peine et mon ras-le-bol, que tu trouverais les mots pour me rassurer. Des soirs comme celui-ci, je regrette notre vie en Pologne. Je me souviens de ces après-midi ensemble, à coudre et à rire de tout, même des difficultés. Seule, je n'ai pas assez de force pour ça. Je me contente de pleurer sur la table de la cuisine, en cachette. Je ne veux pas que Ludmila s'inquiète pour moi. Elle subit déjà les conséquences des bêtises de son frère. Quelle enfance lui offre-t-on à voir débarquer la police à toute heure ? Elle reste devant les dessins animés, mais je sais qu'elle nous écoute. Elle voudrait comprendre ce qu'on ne lui explique pas, parce qu'on ne le comprend pas nous-mêmes. Mais toi, dis-moi, comment vont les enfants ? Et Bogdan ? Tu n'es pas surchargé au bureau ? La neige est-elle déjà tombée à Wrocław ? Chez nous, elle n'a pas encore pointé le bout de son nez, mais les températures de ces derniers jours me laissent espérer qu'il y en aura peut-être bientôt. Pour Noël, qui sait ? Je t'embrasse très fort. Remets un grand bonjour aux enfants, à Bogdan et à tous ceux que je connais autour de toi. Ta sœur chérie, Daniela. Aux urgences, ils ne sont pas pressés. Ils ont suivi la même formation que les flics. Ils s'occupent d'un minimum de choses en un maximum de temps. Bande d'incompétents. Si la mère de Darius a été reçue ici, pas étonnant qu'elle soit morte. L'infirmière à l'accueil complète le dossier de Pascal aussi vite qu'une tétraplégique. Oui, la comparaison est rude. Mais quand on me force à attendre, je deviens méchant. Surtout qu'elle nous casse la tête avec ses questions en cascade. Votre adresse, votre mutuelle de santé, votre carte d'identité. Pourquoi n'avez-vous pas votre carte d'identité? Qui est ce jeune homme? Et vous n'avez pas votre carte d'identité non plus? Comment voulez-vous que notre service intervienne rapidement si vous ne possédez pas les documents requis? Pascal répond néant à tout ce qu'elle lui demande, et de mon côté, je suis incapable de fournir les informations manquantes. Je ne connais pas son nom de famille. J'avais même oublié qu'il en avait un. L'infirmière appelle sa chef de service pour lui expliquer entre ses dents qu'elle ne sait pas très bien ce qu'elle doit faire de nous et qu'elle me trouve un peu nerveux. Elle papote, puis décide de nous envoyer en salle d'attente. Dans son fauteuil roulant, Pascal se remet à pleurer. Il me répète qu'il n'a même plus mal, que les endroits trop propres le rendent malade et qu'il voudrait son oiseau. Je le raisonne. Le médecin, et après, on verra bien. Il ne faut pas compter sur lui pour être d'accord.
Je suis assez vieux pour décider de ce qui est bon pour moi.
Très bien, après tout, c'est pas mes affaires. Je me lève.
Où tu vas ?
Je me casse puisque tu peux te débrouiller seul.
Non.
Alors tu te soignes.
Mais je sais parler et je sais marcher.
Dès qu'il se met debout, il s'effondre. Les gens l'observent avec une pitié qui me dégoûte. À nouveau, il n'y a que moi pour le ramasser. Allez, ça suffit, tu restes ici et tu ne bouges plus.
Mais...
Ta gueule ! Tout le monde me regarde de travers. Vous avez un problème ? Une dame à lunettes sursaute parce que je crie trop fort pour ses oreilles. Sans moi, il serait encore la gueule dans son sang. Alors arrêtez de me péter les couilles. La sécurité débarque juste avant que je lui arrache son magazine des mains.
Qu'est-ce qui se passe ?
Rien, rien.
Suivez-moi, s'il vous plaît.
J'obéis au garde. Il a été poli et il n'a pas utilisé la force pour s'imposer. Je l'accompagne au bout du couloir où il m'explique que je n'ai pas le choix. Soit je me calme, soit je vole dehors. Les deux options habituelles. Moi, je ne supporte pas les ordres. Je déteste le chantage et les points finaux. Je crève d'envie de l'envoyer bouler, mais je promets de rester sage. Il m'accorde sa confiance. Je suis tombée sur un bisounours. Surveiller un hôpital, ça rend naïf. Forcément, le seul danger ici, c'est une coupure de courant ou soins palliatifs. Monsieur Pascal ? Le médecin se démerde avec ce qu'il a. C'est à nous. Je laisse gros bisous à son couloir aseptisé pour pousser Monsieur Pascal à l'intérieur du cabinet de consultation. En 2 minutes, mon pote se retrouve à moitié à poil au milieu des chariots métalliques et des squelettes en plastique auxquels il n'est pas loin de ressembler. Le mec en blanc nettoie, désinfecte, ausculte et palpe les hématomes. Selon lui, il n'y a rien de cassé. Pas besoin de délicatesse. Il coche des cases sur des papiers et me tend un joli programme pour les prochaines heures pour s'assurer que tout va bien. Mais oui, c'est la super forme et l'éclat total. Prise de sang, radio, encéphalogramme. Je regrette mes bonnes intentions. Je suis coincée ici pour la nuit et le train partira sans moi. Si Bouddha existait, je lui demanderais ses trucs et astuces pour rester calme. Parce que les miens, ils ne fonctionnent jamais longtemps. Il a suffi d'une remarque pour que je foute le boxon au 3e étage. On était pourtant bien installés, dans une chambre avec vue sur la ville et la télé. Pascal roupillait dans un lit mis à sa disposition pour la nuit. Et l'infirmière a tout bousillé. Elle a piqué une crise quand elle a vu Héro dans ma poche. J'ai d'abord ignoré le bazar. De son côté, elle a répété plusieurs fois « Pour des raisons sanitaires, j'exige que vous partiez sur le champ !» Je suis restée dans le fauteuil à zapper, persuadée qu'elle lâcherait l'affaire. Erreur fatale. Cette chieuse m'a répondu que les flics étaient en route. Je me suis emballée en une nanoseconde. Je l'ai balancée dans le chariot bourré de plateaux repas à moitié mangé. Son atterrissage au milieu des assiettes a fait un boucan monstre et a sorti Pascal de ses rêves peuplés d'oiseaux en plein vol. J'espère que tout ira bien pour lui. Je me suis enfuie de l'hôpital sans lui dire au revoir et lui souhaiter le meilleur. J'ai repris la fuite il y a environ 1 heure, les poches pleines d'argent et vides des plus infimes espoirs. Minuit sonne. Dans les comptes de ma frangine, c'est l'heure de rentrer chez soi. Pour moi, c'est une autre journée qui commence, avec la certitude, au moins, que ma peine ne grandira plus. Jusqu'ici, tout va bien. Jeudi 1er décembre 2016, minuit 14. La rue m'envoie souvent une bonne dose d'adrénaline. Cette fois, elle en a prévu des kilos. Je n'ai pas le temps de zoner tranquille que j'aperçois Louis et un gars que je ne connais pas en plein business. Pendant ce temps, Guy surveille les alentours. Je n'ai pas le temps de faire demi-tour qu'il m'a repéré. Je suis mort. Pas le choix. Go ! Je sprinte quelques mètres et c'est déjà fini. Des mains me tombent dessus comme des tentacules géants. J'en ai marre d'être plaqué par terre à la moindre occasion. Je me débats. Il m'insulte. Il me fouille et trouve ce qu'il cherche. Putain. Dans le pire, c'est moi le meilleur. Minuit 16. Oh, le beau chaton, regardez les gars. Guy tient Héro par la peau du cou et le balance en souriant. Laisse-le tranquille. T'excites pas, mon petit chou. On lui fera pas de mal.
C'est toi qui nous intéresse. »
Il rigole et Guy jette Héroux vers une poubelle. Il miaule et se relève sans problème. Vrai de vrai que les chats retombent sur leurs pattes. J'espère que ce sera pareil pour moi. Louis et le troisième type me ramassent pour me plaquer au mur. Avec un couteau sous la gorge, c'est plus rigolo. Guy promène sous mon nez le morceau de verre que je trimbalais dans ma poche.
« Tu te prends pour un truand ?
Alors que t'as même pas d'opinel à toi ?
C'est triste, ça. »
Guy lance derrière lui la seule arme que j'avais pour me défendre. « C'est pas bien de voler ce qui t'appartient pas ?
Pas très malin. Ça mérite une punition, hein, les gars ?»
Chacun a droit à sa phrase, histoire qu'il n'y ait pas de jaloux.
« Qu'est-ce qui s'est passé dans ta cervelle ?
T'as oublié qu'on est beaucoup plus fort que toi ?
Ou alors une cervelle t'en a pas ?»
Le but de l'interrogatoire n'est pas que je réponde. Avec ce que j'ai sur la pomme d'Adam, ce serait très compliqué.
« Louis, t'as pas une clope ?»
L'autre lui donne son paquet et Guy s'en allume une avant de revenir près de moi.
« Tends ta main. »
Je serre les dents et les poings. Louis appuie avec la lame sous mon menton.
« Tends ta main. » « Voilà, tu vois que t'es gentil quand tu veux. »
Guy plante le bout de sa cigarette dans ma paume. J'ai trop mal pour crier. Et je ne leur offrirai pas ce plaisir.
Oh, comme c'est mignon! Tu joues au courageux!
Ça aussi, c'est pas très malin. On va devoir trouver autre chose pour que tu craques. On a tout notre temps. Toute la nuit. Toute la vie.
Le troisième est fier de sa réplique. Du coup, il en enchaîne une autre avec sa voix abîmée par tout ce qu'il a déjà fumé.
T'as de la chance que Raja soit occupé.
Lui, il te trancherait la gorge sans hésiter.
Enfin, nous aussi. C'est juste qu'il nous l'a interdit. Il préfère régler ses comptes lui-même. C'est le chef, et on le respecte. Mais toi, le respect, tu connais pas.
Louis enfonce la lame dans mon cou, juste assez pour dessiner une légère entaille. Ça picote.
Du calme, Louis. C'est trop tôt pour le saigner. Il n'a pas assez souffert.
Ils se ruent tous les trois sur moi. Retour à la case départ, sur les pavés mouillés.
Si on te revoit dans le coin, t'es mort. C'est compris? T'es sûr?
Ils tiennent ma tête juste au-dessus du sol. Une partie de ma joue le touche.
Tu le vois, le trottoir? Eh bien, si tu oses encore traîner par ici, on explose ta sale gueule de merde dessus. Jusqu'au bout et jusqu'à ce que la cervelle qui te manque sorte de ton crâne. Attendez, les mecs! On va lui montrer pour qu'il imprime.
Une main me relève le visage.
Un, deux, trois.
Guy frappe de toutes ses forces Héroux sur le bitume et, sans hésiter un millième de seconde, Louis et son pote l'écrasent avec leurs pieds. Minuit 20. Les minutes défilent et je me demande si je me relèverai un jour. Je suis plus fissurée qu'un plafond prêt à s'écrouler. Pas Héroux. Non, pas lui. Il n'y était pour rien. Bande d'enculés. C'est leur cœur vide qu'il faudrait écrabouiller. Ils n'avaient pas le droit, pas le droit. Héroux. D'ici, je vois son petit corps disloqué. Rouge. J'ai l'impression que ma bouche est pleine de sang, que mes os sont brisés, que c'est moi qu'ils ont buté. Je ferme les yeux pour arrêter d'avoir mal. Mais l'image est déjà gravée dans ma mémoire. Elle m'en rappelle une autre. Le chien en Pologne. Mon grand-père ne l'a pas enterré. Il l'a jeté avec les ordures et personne ne s'y est opposé. Je ne supporterai pas ça une deuxième fois. Héroux ne finira pas comme du papier froissé. Je me remets debout. Je ramasse mon morceau de verre et je cherche dans les poubelles un sac, une boîte, n'importe quoi. Dommage que Pascal ne soit pas là. Lui, il dénicherait quelque chose d'utile parmi ces déchets qui me dégoûtent. Rien ne convient. Bon, mes mains feront l'affaire. Je m'agenouille devant Héroux et je les glisse sous ce qui reste de son dos. Il est tout léger, tout mou, tout minuscule. Sa tête est presque indemne. Je le regarde un moment, histoire de me souvenir de lui, de son museau qui se réfugiait dans mon cou. Mes larmes montent. Ce coup-ci, je ne pleurerai pas. Je chasserai ma tristesse. Le seul truc à faire, c'est avancer, comme on dit. Et ce n'est pas aussi con que ça en a l'air. Les funambules, sur leur fil haut perché, ils réussissent leur traversée en posant un pied devant l'autre, pas en s'arrêtant au beau milieu du vide. J'y arriverai, avec mon chaton mort sur les bras. Je marche dans la rue déserte et je fixe le premier point lumineux que j'aperçois. Un néon rose où je suis certain de trouver le réconfort dont j'ai besoin. Jeudi 1er décembre 2016. Je cherche le sommeil sans espérer le trouver. À cause de tout ce qui s'est passé ce soir, mon esprit court un marathon. Je fixe le plafond et je pense à Joseph, à ce qu'il a cru, à ce que je lui ai dit.
T'es taré ou quoi ? Tu vaux que dalle, connard. Que dalle, connard.
J'y suis peut-être allé un peu fort, même s'il le méritait. Cette fois, il a dépassé les bornes, il a tout gâché. J'ai été trop conne d'accepter de sortir avec lui et de me mettre à l'aimer. Mais qu'est-ce que je m'imaginais ? Il est même pas du genre à offrir des fleurs. Il m'amène que des problèmes et j'en ai déjà assez avec Radja. D'ailleurs, je ferais mieux de retourner dormir si je veux pas rater mon interro de maths et qu'il m'engueule encore. Mais bon, dès que je ferme les yeux, j'arrête pas de voir le dos de Joseph qui s'en va sous le pont. J'arrête pas de me répéter ce que je lui ai crié. Et surtout, 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 j'arrête pas d'avoir peur qu'il m'ait obéi et qu'il soit parti pour de vrai. Il est tellement con qu'il en est capable. J'aurais dû passer par chez lui ce soir pour vérifier. Maintenant, c'est trop tard. Tout le monde piote, sauf moi. Et puis merde, j'en ai marre de m'inquiéter pour lui. Si demain matin ça me tracasse encore, j'irai sonner chez lui. Minuit 31. Sale chauffard, il roule trop vite. À ma tête, Christy capte illico que l'histoire est plus terrible. Ouais, la première personne à laquelle j'ai pensé est « call girl », le terme technique indiqué sur sa carte de visite, parsemée de cœurs et de dentelles. Dès que j'ai vu les enseignes lumineuses clignoter dans la noirceur de la ville, je l'ai cherché, dans ce quartier où Darius et moi, on a souvent voulu traîner sans jamais oser. Oh, Loulou, c'était ton chat ? Ouais, et ils l'ont tué. J'aurais dû le laisser avec les autres. Avec moi, on n'a que des problèmes.
C'est des conneries, ça. Allez, assieds-toi et raconte-moi.
Elle me désigne le lyre couvert d'une couette où des anges volent parmi les nuages. Dans la chambre, elle a mis un bouquet de fleurs en plastique sur la table de nuit et un cadre avec un champ de coquelicots sur le mur. Cette image me dit quelque chose. Elle devait être accrochée dans un couloir à l'école ou sur le frigo. Pendant que je m'installe, Christy fouille dans une armoire et en sort une boîte de chaussures. Elle en retire des talons aiguilles en strass qu'elle balance derrière son épaule.
« Tiens, Loulou, dépose-le là-dedans. Faut pas le garder dans tes bras comme ça. »
Elle attrape un coussin et le place à l'intérieur du cercueil en carton.
« Voilà. Allez, lâche-le. »
Elle m'aide à coucher Héro et elle referme le couvercle d'un air solennel. Elle m'attire contre elle, me fourre le visage contre ses seins trop parfumés et me caresse les cheveux. Elle me berce, comme l'enfant qu'elle n'a sans doute pas. Je suis bien dans ses bras. Je me laisse faire. Pour une fois.
C'est pas grave de craquer. Faut pas avoir honte.
Ma gorge est trop nouée pour lui répondre. Dans la pièce d'à côté, elle va chercher du whisky qu'elle verse dans deux verres à thé marocains.
Bois, ça va te requinquer.
Santé. Hop, elle avale le sien cul sec.
Une cigarette ? À manger ?
Comme elle ne peut pas me vendre son corps, elle compense avec le reste. Et elle est étonnée que je refuse ses propositions. Les mecs doivent rarement lui dire non.
Loulou, ça sert à rien de déprimer. Ton copain t'a refilé sa dépression, quoi ?
C'est trop long à expliquer.
Surtout dans ton état. Franchement, tu ne ressembles plus à grand-chose.
Oh, te vexe pas. Elle me pince la joue et me lance une serviette de bain.
Tu te sentiras mieux après une douche. J'ai pas envie que tu salisses mon intérieur avec tes mains dégorgeurs.
Non mais regarde-moi ça, t'as salopé mon édredon.
C'est pas possible. Oust, va te laver.
On croirait ma mère, sourire en plus.
Qu'est-ce que t'attends ?
T'inquiète, des mecs nus, j'en vois plusieurs par jour. Je me débarrasse de mes habits mouillés et elle file sur le palier au moment où j'enlève mon caleçon. Je l'entends gueuler après sa copine dans l'escalier.
« Barbara ! Barbara ! Il y a des petites tailles aux objets perdus ?»
Quand je ressors tout propre, ma serviette autour des hanches, Christy et Barbara sont en train de passer en revue les vêtements accumulés dans une manne à linge. Enfile-moi ça. Christy jette à mes pieds une chemise bleu turquoise et me montre en rigolant un pull vert moutarde avec des losanges bordeaux. C'est pas terrible, mais nos clients portent pas de la haute couture, désolé. En avant pour le défilé. Ce n'est pas le moment de jouer à la fashion victime. Je commence les essayages. J'ai l'air d'un bouffon. Mais non. Christy et Barbara me placent devant le miroir et on se marre à fond. On ne parvient plus à s'arrêter. Comme les grincements de sommier sont plus fréquents ici que les éclats de rire, quatre autres filles débarquent, toutes en talons aiguilles hyper hauts, hyper brillants et hyper sexy. À croire qu'elles en ont eu 3 plus 1 gratuit. La plus vieille porte une robe moulante qui cache à peine son string. Les autres sont carrément en soutif, avec dentelle, léopard et tout le tralala. Il y en a même une avec un porte-jartel du rose vif de la moquette. Elle repère mon regard qui glisse sur ses longues jambes et me sourit avec ses dents du bonheur pas cher. Sur ses lèvres, une tonne de maquillage. Pareil pour ses copines. Et sur les paupières de la petite brune qui me colle comme si j'étais milliardaire, il y a des paillettes. C'est elle la plus jolie. Rien qu'à regarder ses fesses rebondies, je rougis. Si ma mère savait où je suis. Tu vois, tu retrouves ton énergie. Christy caresse ma joue cabossée que ses nanas ont réchauffée en une seconde. Allez, je suis certaine que ça s'arrangera. Ça s'arrange toujours. Les hommes, nous, on en croise des tas. Avec leurs mini-drames et leurs gros problèmes. Ils n'aiment plus leurs femmes. Ils s'en sortent pas avec leurs gosses ou leurs maîtresses. Ils se sont ruinés au casino. Après avoir tiré leur coup, ils chialent une bonne fois dans nos bras, puis tout rentre dans l'ordre. Pas vrai, les filles ? Elles confirment et écrasent leurs cigarettes dans le cendrier qui déborde au milieu de boîtes de préservatifs. Eux, c'est sûr, Christy les a achetées en promo. Bon, mes poulettes, retournez à vos affaires, on a besoin d'intimité. Elles quittent la chambre en papotant et Christy se couche sur son lit, la tête posée dans la main, façon top modèle sur une plage de sable fin. Sauf qu'elle ressemble plutôt à un mannequin de seconde main avec son scorpion tatoué autour du poignet. Elle tapote la couverture pour m'inviter à approcher. Maintenant, dis-moi tout. Ils t'ont libérée et puis... Je me suis enfuie. Quoi, t'es en cavale? T'as semé les poulets, le Michel et sa clique? Ouais, ouais. Top là! Arrête, je suis dans la merde. C'est pas nouveau, ça, il me semble. Je vide mon sac pendant qu'elle allume clope sur clope et m'écoute déballer mes malheurs sans m'interrompre. Eh bien, Macaille, quelle aventure! Pas Macaille, s'il te plaît. C'est mignon. Non. Bon, et maintenant, c'est quoi ton programme? Me barrer, y a pas le choix. On a toujours le choix. Même si j'avais envie de rentrer chez moi, c'est impossible. J'ai trop de monde sur le dos. Les kilomètres ne résoudront pas tes problèmes. Les problèmes tracassent, j'ai l'habitude de vivre avec. Je préfère qu'ils encombrent mon chemin plutôt qu'une cellule. Et les autres? Tu as pensé aux autres? Ça y est, encore une qui va me traiter d'égoïste. Je n'ai pas le temps de l'envoyer bouler qu'elle entame un long discours. Mais à l'inverse de ceux que j'ai entendus jusqu'ici, il ne m'explique pas ce que je suis censé faire pour redevenir un gentil garçon. Il me parle de sa vie, à elle, et de l'enfant qu'elle a perdu il y a 12 ans. Lisa. Lisa et son joli maillot blanc aux étoiles argentées. Ses jambes fines et souples. Ses prouesses sur la poutre, ses saltos impressionnants, ses victoires aux compètes, ses rêves de championne et sa terrible chute un soir d'entraînement. Les yeux de Christy s'embuent et ses larmes ne coulent pas. Sa douleur, elle l'a apprivoisée. Je la repère dans sa voix calme et douce. Je la lis sur son visage, entre le sourire des souvenirs et le dépit du présent. Je l'entends résonner dans cette chambre trop petite pour la contenir. Christy, en oubliant de tirer sur sa cigarette, la regarde bien en face avant de se tourner vers moi. Macaille, n'abandonne pas ta maman. Ne laisse pas les tiens. La phrase reste suspendue dans le silence pendant que cette mère inconsolable déshabille ma haine du regard. Appelle-la.
Christy me tend son téléphone. Sur l'écran d'accueil, une gamine blonde pose fièrement une coupe dorée entre les mains. C'est pas une bonne idée. Au fond, je sais que tu aimerais la rassurer. Il est tard. Elle ne dort pas, crois-moi. Christy a réponse à tout et s'en va savourer sa victoire dans le couloir. Après une sonnerie seulement, ma mère décroche. Et chiale. Ça craint. Je n'ai rien à lui dire à part que tout va bien et plus je le lui répète, plus elle renifle dans le combiné. Je ne suis pas psychologue, moi. Je n'ai jamais consolé personne. Pleure pas, maman, pleure pas. C'est pas grave. T'inquiète pas, ok ? Et préviens pas la police. Je ne me doutais pas que ma mère pouvait craquer à ce point.
Ton père voudrait te parler. Il est à côté de moi. Je te le passe.
Trop tard, j'ai raccroché. Deux larmes glissent sur mes joues. Décidément, je deviens trop sentimentale. Une heure 1h28.
Bon, il faut que je prépare ma valise pour mon voyage d'affaires, moi.
Christy a l'art de présenter ses plans minables comme s'ils étaient du feu de Dieu. Juste pour rêver un peu. À 6h, le gros Patrice vient la chercher pour une virée. Il paraît qu'il est un peu moche, un peu ennuyeux, mais que c'est une super occasion pour changer d'air en gagnant l'équivalent d'une semaine de boulot. Du coup, elle est aux anges et elle choisit des sous-vêtements affriolants en chantonnant.
« Tu pars où ? Loin ? Combien de temps ?»
Christy stoppe net mon questionnaire.
« Tu rêves, Mackay ?»
Je prends un air étonné.
« Pas la peine d'y penser. J'emmènerai pas un truand dans mes bagages. »
« Mais ta chambre, elle me coupe la parole avant que je termine ma proposition.
Tu n'as pas assez de poitrine pour me remplacer.
Mais demain, je te ramène chez toi.
Hein ?
Oui, tu rentres. Chez toi. » Elle souligne en jaune fluo ses deux derniers mots et fourre une nuisette transparente dans son sac.
Tu vas galérer jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'il soit trop tard, c'est ça ? Tu ne seras jamais bien nulle part. Retourner chez toi, c'est le mieux, je t'assure.
Vlan ! Elle empoigne des cuissardes à talons. Les bottes en caoutchouc, ce n'est pas son truc pour marcher sur la plage.
Il est encore temps de t'enfuir si ça ne te convient pas.
Je chasse son clin d'œil d'un haussement d'épaule. À cette heure-ci, à part pioncer sur le matelas humide de Pascal, je n'ai pas 3 millions d'options. Je dors ici et, après, j'improviserai.
Oh, tire pas cette tête. La situation est pas désespérée.
Au moins, tu reverras ta belle.
Non, c'est mort de chez mort.
Tu peux sûrement la récupérer. Les sentiments, ça sert qu'à en crever.
T'as gagné le record du monde du pessimisme ou quoi ?
Et toi, t'es humoriste, c'est ça ?
Non, moi, si ma vie avait tourné autrement, je serais devenue psy.
Mais pute, c'est pas si différent au final. On va trouver une solution. Les relations amoureuses désastreuses, c'est mon rayon.
C'est parti pour une chier de « si j'étais toi ».
Bingo ! T'as qu'à lui écrire une lettre. Les gonzesses adorent les grands romantiques qui ont pas peur des mots.
Ça craint ? En plus, je suis nulle en orthographe.
Pas de souci, je connais le Larousse par cœur. Christy a déjà une feuille de brouillon et un crayon en main, plus les yeux brillants d'une gamine de 12 ans.
Vas-y, je suis prête.
Et moi, je suis dans la merde. Avec son 95D, c'est difficile de lui résister.